La capsule.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ? Allô ?
Le coup de fil à un ami.
Allô ?
Au signal, veuillez dicter votre message. J'ai entendu dire que le tourisme spatial allait enfin devenir concret. Mais concrètement, ça veut dire quoi ?
Au CNES, celui qui sait, c'est François Spirot, responsable vols habités. Allô, François ?
Oui.
Est-ce que tu peux me dire quelle est la différence entre le véhicule Spaceship One et le véhicule Spaceship Two, ces deux véhicules développés par Virgin Galactic ?
Spaceship 2 est le véhicule opérationnel, donc qui va emmener des touristes pour environ 200 000 dollars par billet. Donc, en résumé, la différence entre les deux véhicules, le premier, c'était un prototype pour montrer qu'on sait faire, et puis le deuxième, ben, ça y est, on se lance pour de bon.
Virgin Galactic annonce les premiers vols touristiques pour 2011. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par vol touristique ?
Alors, un vol touristique, il faut distinguer deux types, le suborbital et l'orbital. Le suborbital, c'est quoi ? C'est grosso modo un vol qui part de la Terre et qui arrive tout en haut de l'atmosphère, typiquement autour de 100 km, et puis qui redescend. Donc, on fait un tout petit crochet à l'intérieur de l'espace. En général, les experts s'accordent à dire que l'espace démarre autour d'une centaine de kilomètres d'altitude. Donc, un tel vol suborbital a la possibilité de donner une sensation assez forte de ce que c'est que le vol spatial. On est en apesanteur un bout de temps assez significatif. Mais, stricto sensu, on ne va pas dans l'espace. En revanche, le vol orbital, c'est celui qui dépasse les fameux 100 km, qui va par exemple à la Station Spatiale Internationale. Actuellement, en fait, les vols orbitaux touristiques ne vont que à cette destination, de l'ordre de 300 à 400 km d'altitude. On ne parle pas du tout du même ordre de grandeur de prix ni d'entraînement. Pour donner un exemple, un vol suborbital coûte dans les 200 000 dollars en moyenne, tandis qu'un vol orbital, typiquement une dizaine de jours, va tourner dans les 20 millions de dollars.
Sur ces deux types de vols, est-ce qu'il y a actuellement des projets en Europe ?
Et personne aujourd'hui en Europe n'a la compétence technique pour faire du vol orbital. Contrairement, soit dit en passant, aux Russes et aux Américains, qui peuvent embarquer dans leur navette ou dans leur Soyouz des touristes orbitaux. Pour le suborbital, effectivement, on a quelques compétences en Europe. Il y a un grand consortium européen qui s'est déjà positionné dans ce créneau. Techniquement, je pense qu'en Europe, c'est jouable d'ici 5 à 10 ans.
Que peut-on dire des déclarations de Virgin Galactic qui annonce pour son Spaceship Two un niveau de sécurité 100 fois supérieur à celui des véhicules spatiaux actuels ?
Sans aucun doute, un véhicule de type Spaceship est plus fiable qu'un vaisseau de type navette. C'est très difficile de comparer un vaisseau conçu dans les années 2000, pour ne pas dire 2010, avec un vaisseau comme la navette spatiale qui a été conçu il y a une quarantaine d'années. Les technologies ont évolué. On a énormément renforcé tout ce qui est fiabilité et sécurité.
Les pouvoirs publics, les agences spatiales nationales ont-ils un droit de regard sur ce type de véhicule privé en matière de sécurité ?
Les agences spatiales ne s'occupent pas de vols commerciaux, de vols touristiques. Par contre, en France, depuis un an environ, la loi spatiale qui a été adoptée indique que la puissance publique, qui en l'occurrence est représentée par le CNES, a l'obligation d'assurer la certification pour la sécurité des différents engins qui volent, en particulier les vols spatiaux privés. Il faudra voir si Virgin Galactic, par exemple, a besoin de pistes d'atterrissage de secours en France. Je rappelle que c'est le cas, par exemple, pour la navette spatiale américaine qui a une piste d'atterrissage de secours près de Marseille. Est-ce que le Spaceship 2 de Virgin Galactic aura un tel besoin ? Je ne saurais pas répondre. Mais s'il y a un lien quelconque avec la France, la loi spatiale s'appliquera.
Alors, on a bien compris, il y a d'un côté des vols commerciaux, touristiques, privés, et de l'autre, des vols institutionnels menés par les agences spatiales. Vers quoi tendent actuellement les vols habités institutionnels ?
On commence à réfléchir à l'exploration humaine de la Lune, pour ne pas parler de celle de Mars. Et l'idée, c'est que petit à petit, les institutions publiques rétrécissent leurs interventions pour l'orbite basse et se concentre sur la Lune et Mars au profit d'opérateurs privés. Alors ça, c'est une tendance qui commence à apparaître à la NASA aux États-Unis. Et je pense qu'à moyen ou long terme, la même tendance arrivera en France et en Europe.
Merci, François Spirou.
Ah, merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens. Rendez-vous. 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 L'espace. Drôle d'endroit pour un rendez-vous. Tout y va si vite. Prenez la station spatiale internationale, par exemple. 28 000 km/h, près de 8 km à la seconde. Le 3 avril 2008, à 16h45 précise, l'Europe spatiale avait rendez-vous avec l'histoire. Enfin, la station spatiale internationale, ce qui revient au même. Ce jour-là, avec une infinie douceur et à la vitesse de 7 cm par seconde, le vaisseau de ravitaillement Jules Verne vint tendrement claquer la bise au module russe Zvezda. Un rendez-vous qui avait la force inoubliable des premières fois. Piloté depuis le centre spatial de Toulouse, au CNES, ce rendez-vous marquait l'entrée de l'Europe spatiale dans la cour des grands. Rendez-vous compte, un vaisseau spatial européen avait gagné la confiance des Russes et des Américains pour s'arrimer par ses propres moyens à leur station spatiale habitée. Le genre de rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer. Car dans l'espace, quelques secondes d'avance ou de retard, et c'est la vie qui bascule. Lors de leur retour mouvementé sur Terre en 1970, les astronautes d'Apollo 13 ne durent leur salut qu'au tic-tac d'une montre mécanique. C'était la seule qui fonctionnât encore dans ce vaisseau privé d'électricité. Grâce à cette montre, les astronautes purent chronométrer exactement la durée d'allumage du moteur qui devait leur permettre de rejoindre la Terre. Trop long, et ils auraient ricoché sur l'atmosphère. Trop bref, et leurs réserves d'oxygène auraient été épuisées avant qu'ils ne retrouvent l'air libre. Manifestement, leur heure n'avait pas sonné, puisqu'ils furent pile au rendez-vous. Si malgré toutes ces péripéties, vous avez encore envie de voyager dans l'espace, munissez-vous d'une bonne montre et d'un agenda. Car vous l'aurez compris, les vaisseaux spatiaux ne reçoivent que sur rendez-vous.
Quand vous êtes dans l'espace, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas.
On adore cette science de l'espace.
3, 2, 1, top.
Ça, c'est Uranus, et ça, c'est Neptune.
C'est Doppler and Docking Star.
Tout va bien à bord, nous entendons le lanceur qui passe au-dessus de Jupiter.
Sur le vif.
29 octobre 2009. À Kourou, les ingénieurs du Centre Spatial Guyanais s'apprêtent à effectuer le 6e lancement de l'année. Ariane 5 doit mettre en orbite 2 satellites de télévision. Au même moment, à 7000 km de là, à la direction des lanceurs du CNES, en banlieue parisienne, on s'affaire.
Oui, je reste au CNES. Ouais. D'accord, ok. Merci. À plus. Salut.
Alors moi, je suis Sophie Roland et je suis chef du service communication information ici à la direction des lanceurs. Alors on va dans nos salles qui sont ouvertes aujourd'hui et déployées pour accueillir le grand public. On entend de la musique parce que la régie est en train de faire des essais sons. On va accueillir le public, on ouvre les portes du site à 20h15, soit trois quarts d'heure avant le décollage, pour un début de retransmission à 20h40, 20 minutes avant le décollage.
Je t'écoute. Annonce la fin de la SU4070 vidéo, activation.
Alors ici, c'est dans notre jargon, on appelle ça la salle projet, la salle observateur technique. C'est la base arrière de Kourou, où ici il y a des ingénieurs d'Ariane Espace, du CNES, de l'industrie qui sont réunis. Salut Thierry.
Moi, je m'appelle Thierry Stilas, je suis expert système électrique à la DLA. Et donc notre rôle lors des lancements est d'être ce qu'on appelle en base arrière. Donc la base arrière, ce sont des gens qui se trouvent à Évry, qui ont l'information de tout ce qui se passe en direct à Kourou et qui sont là pour réagir en cas de pépin.
Je te confirme, SVM 0731 fermé,
1777 ouverte.
Les gens de Kourou, dit la base avant, sont là pour exécuter. Et lorsqu'il y a des problèmes, à Ivry, on dispose de toute la documentation et de la connaissance du fonctionnement des systèmes pour pouvoir répondre et aider les gens de Kourou qui sont sous pression.
Ok, merci.
Alors ben voilà, on vient d'ouvrir les portes, donc les invités commencent à arriver. Il y a des gens du personnel, du CNES, d'Ariane Espace, leurs invités. Bonsoir.
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 Il y a de bons signaux pour ce soir.
Oui. Tout est calme pour l'instant, la météo est bonne. On a de fidèles retraités qui viennent quasiment à tous les lancements. Donc Anna Banchereau, qui était là il y a 30 ans et qui était responsable du programme de vol d'Ariane 1.
Je suis au CNES depuis 64 et donc jusqu'en 94 j'ai pris ma retraite. Et donc je me suis occupé de tous les logiciels embarqués, donc aussi bien Ariane 1, Ariane 2, 4. J'avais démarré Ariane 5, mais malheureusement je suis parti avant le tir.
Bonsoir à toutes et à tous, content d'être avec vous, merci d'être avec nous pour ce lancement. Nous commentons ces images depuis le centre Jupiter où parviennent en temps réel toutes les informations et toutes les données de cette chronologie finale.
Alors donc Jean-Pierre Geneviève, inspecteur d'Académie pédagogique régionale, donc de l'Académie de Versailles. Le CNES donc avait accueilli une grande conférence et à laquelle ont été invités donc 180 professeurs de l'Académie de Versailles. Et c'est à ce titre-là justement que j'ai été invité ensuite pour le tir de ce soir. Puis ensuite, c'est vrai que j'ai toujours été passionné d'astronomie et d'astrophysique. Donc pour moi, c'est un plaisir d'être là ce soir.
Le décollage d'Ariane 5, eh bien c'est toujours un moment exceptionnel. Nous allons nous taire, nous allons vous laisser profiter pleinement de ce spectacle. Ouvrez grand les yeux et les oreilles.
À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage AP, décollage.
Un spectacle magique, cette merveille de technologie qui s'élève dans le ciel de Kourou. Un lancement de jour, ce qui est assez rare, et Ariane 5 s'est élancé pour échapper à la gravité terrestre. Ça va toujours assez lentement au début, mais ça accélère très très vite.
Je suis maire adjoint à Courcouronnes, chargé de la culture, et j'ai l'occasion de venir, j'en profite. J'ai l'impression que j'ai les cheveux qui se restent sur la tête, mais juste au début du lancement. Hein. Il peut toujours se passer quelque chose quoi, à ce moment-là.
S'est allégé pour mettre sur orbite les deux satellites qui lui avaient été confiés ce soir. Donc NSS-12 d'ores et déjà arrivé à destination et dans quelques secondes ce sera au tour de Tarsis. Voilà. Voilà, c'est fait.
Moi, c'est la première fois. Ma femme aussi est venue pour la première fois. Et donc, c'est vraiment très, très émouvant. C'est un espèce de rêve de gamin, quoi. On n'est pas dans la salle de lancement, mais presque. L'émotion est la même que celle où la nuit de 69, mes parents m'ont réveillé pour voir l'homme marcher sur la Lune. Voilà, c'est exactement de ce niveau-là. C'est magique.
Ah, moi, je me suis retrouvé comme un enfant, en fait. Moi, ça m'a rappelé plein de choses quand j'étais petit et que je m'amusais avec des petits trucs en Lego. Et puis à côté de ça, oui, en tant qu'adulte, du haut de mes 38 ans, bah, c'est un petit peu là le côté émerveillement. Alors là, plus de l'enfant, mais de l'admiration, l'admiration technique.
Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est bon, le décollage en lui-même est impressionnant, effectivement. Mais c'est aussi tout le travail conjoint des équipes internationales et le respect des délais qui force l'admiration quand même. Hein.
Je m'appelle Vincent Taponnier, je suis le chef du service structure thermique et matériaux à la direction des lanceurs, au CNES. Alors pour ma part, l'émotion se mélange au stress de la remise en question perpétuelle, dans le sens où chaque vol est une mise à l'épreuve au sens technique du terme, est un essai grandeur nature. Donc chaque vol est une petite remise en question de nos propres certitudes, de nos propres convictions. Et chaque succès, comme ce soir, est une occasion de remotivation, aussi bien à titre individuel que pour l'ensemble de l'équipe.
Qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Tourisme galactique. Nous sommes tous vierges en business, avait lancé l'une de ses collaboratrices à l'époque où il créait son entreprise de commercialisation de disques par correspondance. Vierge, Virgin, Richard Branson allait faire de ce mot un label désormais mondialement connu. Lorsqu'il se lance à l'aventure du tourisme spatial en 2004, il aurait pu répéter « Nous sommes encore presque tous vierges en voyage spatial ». 5 ans plus tard, alors qu'il vient de présenter à la presse son vaisseau Spaceship Two, le temps des mots et des rêves paraît s'achever, celui des réalisations mais aussi des interrogations commencées. Avec Virgin Galactic, l'espace aurait-il lui aussi perdu de sa virginité en devenant la prochaine destination pour touristes fortunés ? À la vue des billets à 200 000 dollars qui permettent d'entrer dans le club, jusqu'à présent très fermé, des hommes et des femmes qui ont quitté l'atmosphère terrestre et sont allés se frotter aux premières franges galactiques, les gardiens de la pureté et de l'orthodoxie spatiale s'inquiètent. Qu'est-ce que ce vendeur de rêves à bas prix, ou presque, viendrait faire sur les terres des héros de l'espace, avec ses allures de stars et ses hôtesses de l'air aguichantes bientôt relookées spatiales ? Déjà malmené par les activités militaires qu'il héberge, l'espace ne risque-t-il pas de perdre, avec le tourisme spatial, toute chance de garder son statut de patrimoine commun de l'humanité ? Le danger est réel et la prudence requise. Pour autant, il ne faudrait pas oublier comment, dans l'histoire de l'humanité, l'explorateur et le savant ont rapidement vu leurs traces, si difficilement inscrites dans des terres inconnues, recouvertes par celles des marchands, des rêveurs et des touristes. Une excellente manière pour les aventuriers, m'avouait un jour un astronaute, de se faire déloger et renvoyer à de nouveaux mondes à découvrir. Il reste à souhaiter qu'avec le titre et les insignes d'astronaute, les clients de Virgin Galactic ne reçoivent pas seulement une sorte de reconnaissance, de récompense comprise avec le prix du billet, mais aussi une mission, une responsabilité, celle de rendre les activités spatiales plus proches du public, plus accessibles. Celle aussi d'incarner un instant ce mouvement vers l'avant, vers l'avenir, qui appartient tellement à notre humanité.
Alors, allons-y.
La capsule a été imaginée par Daniel Piévé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre ?
C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi.
Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sur ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le terrain ?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui, Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Ce serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre ? C'est qui a les clés ?
Allez, à la prochaine.